La chronique de l'Office de la protection du consommateur avec Charles Tanguay est une présentation de Sylvain Laviolette, courtier en assurance de personnes. Vous avez entre 18 et 80 ans? Pour une assurance vie ou une assurance maladie grave, Sylvain Laviolette peut vous aider.
Anne le matin.
Chronique de l'OPC.
Eh bien, on va parler de rénovation aujourd'hui, le printemps qui ne tardera pas à arriver. Il est déjà arrivé, mais il se fait attendre un peu. Bien, c'est généralement à cette période-ci de l'année qu'on planifie nos projets de rénovation, qui embaucher et comment s'assurer que ces travaux-là ne viront pas au cauchemar. Charles Tanguay, l'Office de la protection du consommateur, nous livre quelques conseils utiles avant d'engager un entrepreneur. Charles Tanguay, bonjour.
Bonjour Anne.
Charles, l'idée de s'embarquer dans des travaux de rénovation, ça peut être anxiogène pour certains.
Oui,
il faut dire qu'on a tous entendu parler de travaux de construction, de rénovation qui ont tourné au cauchemar. Est-ce que c'est un domaine plus problématique que d'autres?
Bien, c'est un des secteurs qui suscite le plus grand nombre d'appels à l'office. L'année dernière, par exemple, le service lié à la construction, l'entretien, la rénovation des habitations, ça a généré cette catégorie-là. 7 % des plaintes, en troisième position en palmarès, derrière le secteur de l'automobile et les appareils électroménagers.
Et quel conseil vous donneriez justement aux auditeurs, auditrices, pour qu'ils évitent justement de se retrouver dans ce fameux 7 % pour qu'ils trouvent un bon entrepreneur?
Alors, sans surprise, là, c'est d'obtenir des noms d'entreprises de confiance avec un des meilleurs moyens, bien, c'est peut-être de demander à son entourage, de demander des références. On peut aussi consulter des listes d'entrepreneurs dans les sites web d'associations, corporations professionnelles, organisations qui font des recommandations ou qui offrent un service de médiation en cas de problème, comme le CAA. Et attention aux entrepreneurs qui ne donnent pas d'adresse complète ou qui donnent seulement un numéro de téléphone comme coordonnées. En cas de problème, on pourrait avoir de la difficulté à retrouver l'entreprise. On recommande aussi de faire des vérifications au sujet du commerçant qu'on a ciblé. Alors, sur Internet, il y a toujours les avis que les gens peuvent laisser. Il faut se méfier d'un entrepreneur qui n'a que des avis encenseurs. Ce sont peut-être de faux avis. Il y a également le registre des entreprises qui permet de vérifier depuis quand l'entreprise existe, qui sont ses administrateurs, etc. Et un coup rendu là, on peut aussi aller jeter un coup d'œil à jugement.qc.ca, jugement au pluriel, un site qui répertorie tous les jugements. Et donc, on pourra savoir si cette entreprise-là a déjà été condamnée dans le passé, elle ou un de ses administrateurs. On peut bien sûr faire une vérification à l'Office de la protection du consommateur. Vous pouvez appeler, mais vous pouvez aussi utiliser notre outil « Se renseigner sur un commerçant ». Et puis, il y a le site de la Régie du bâtiment du Québec, un autre endroit à vérifier, la RBQ.
Exact. Parlant de la Régie du bâtiment, là, quel est son rôle au juste?
Alors, la RBQ veille à la qualification des entrepreneurs et c'est elle qui délivre les licences d'entrepreneurs. Alors, pour obtenir sa licence à RBQ, l'entreprise doit verser un cautionnement. Ça, c'est un montant d'argent qui sert à garantir ses obligations. C'est d'ailleurs un autre point essentiel pour le choix d'un entrepreneur, s'assurer que la licence RBQ est en règle et qu'il détient l'entrepreneur la bonne catégorie de licence, celle qui correspond au type de travaux qu'on a à faire. On suggère aussi de vérifier si l'entreprise a une assurance responsabilité civile. Ça peut être très utile là, s'il causait des dommages à votre propriété.
Mais si c'est plutôt l'entrepreneur qui nous choisit, qui vient cogner à notre porte pour offrir ses services?
Oui, bien, sachez que les entreprises qui font du porte-à-porte ou qui vendent sur Internet avec des promesses de toutes sortes, là, ça prend un permis de commerçant itinérant pour faire ça. On va refaire une chronique là-dessus, mais il y a des nouvelles interdictions. Je vais en reparler un peu plus loin. Les vendeurs de thermopompes, entre autres, ça, maintenant, c'est interdit de vendre des appareils en commerce itinérant, vendre des appareils de chauffage en commerce itinérant.
OK. Et si c'est moi qui le demande, entrepreneur, est-ce que c'est du commerce itinérant?
Dans certaines catégories de travaux, oui, même donc pour dans la rénovation résidentielle, les commerçants qui vendent, installent ou réparent des portes et fenêtres, des couvertures ou des revêtements extérieurs sont considérés automatiquement comme des commerçants itinérants, même quand c'est vous qui les appelez, aussitôt qu'ils concluent une vente chez le consommateur. Donc, ils doivent bien sûr aussi avoir leur licence RBQ, mais ils doivent également être titulaires d'un permis de commerçant itinérant de l'office.
Le permis que vous parlez, là, à quoi ça sert?
Ah ben, faut savoir que le permis, c'est pas un gage de compétence ni d'honnêteté. Donc, par contre, ça implique que le commerçant verse un cautionnement à l'office, c'est-à-dire une somme d'argent qui peut être utilisée pour vous dédommager en cas de problème. L'autre chose concernant les vendeurs itinérants, ben on les voit qui s'annoncent sur Facebook. Là, vous remplissez un formulaire pour savoir si vous avez droit à une subvention, une inspection gratuite. Il y a encore des concours aussi. Vous gagnez 5 000 $ d'armoire de cuisine, par exemple. Mm-hmm. Méfiez-vous si un de ces commerçants-là vous dit que vous avez des travaux urgents à faire ou qu'il faut signer aujourd'hui absolument. Vous avez des gros problèmes de moisissure dans l'entretoit. Il faut tout défaire. Il faut rien signer sur le champ. On a aussi des histoires d'horreur en matière de toiture. Des soumissions très basses. Et puis, dès que la couverture est défaite, là, ils vous reviennent avec un extra épouvantable. Ouais. Bon, bref, faut toujours demander une deuxième opinion d'un spécialiste. Ne jamais précipiter la signature. Faut savoir, comme je le disais, que il y a certains types de ventes qui sont interdites maintenant en commerce itinérant, thermopompe, isolation, décontamination. Il y avait beaucoup d'arnaques et on aura l'occasion d'en reparler.
On va revenir avec ça. Une fois qu'on a ciblé, je ne sais pas, 3 ou 4 entreprises, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, on définit clairement notre projet. Là, si c'est un gros projet, on fait des plans. Surtout si c'est des gros travaux. Le plan, que ça va vous aider bien sûr à savoir où vous en allez avec ça et respecter votre budget. Vous devez définir la nature des travaux, la qualité des matériaux, les exigences pendant les travaux, le permis, qui s'occupe du permis, les déchets, la propreté, les délais aussi, on en est le plus précis possible. Il y a sur Internet des contre-types de rénovation dont on peut s'inspirer. Il y en a, je crois, sur le site de la régie du bâtiment. On remet ensuite, évidemment, ces consignes, ces plans-là à 2 ou 3 entreprises pour leur demander une évaluation, une soumission par écrit, avec qui comprend le coût des travaux et le coût des matériaux. Et comme ça, on peut comparer toutes les offres qui nous sont faites et prendre une décision éclairée. Faut pas s'arrêter seulement au plus bas prix, hein. Souvent, on soumissionne trop bas, puis après ça, on rajoute des extras en cours de travaux. Donc, finalement, on finit par payer plus cher. Donc, devrait entrer en ligne de compte aussi la confiance que l'entreprise nous inspire, sa feuille de route, ses références. Alors, en signant le contrat, il faut s'assurer aussi que toutes les promesses qu'on vous a faites verbalement se retrouvent bel et bien écrites noir sur blanc. Le coût des matériaux, c'est particulièrement important parce qu'on a vu des flambées de prix de matériaux. Alors, en principe, si l'entrepreneur s'est engagé à un prix, il doit le respecter. Dans la réalité, par contre, quand ça prend une mauvaise tournure, là, qu'on veut vous faire payer plus cher, des fois, on est comme forcé d'accepter. Ouais. Il y a une matière à négociation parce qu'évidemment, on veut pas non plus forcer un entrepreneur à travailler à perte parce qu'il pourrait bâcler les travaux et ne pas faire la belle ouvrage, comme on dit.
Ouais,
et puis, les délais aussi sont importants. Si vous avez un calendrier de réalisation qui est important, là, par exemple, vos vacances en dépendent, là, faites inscrire au contrat. On pourrait même faire inscrire des pénalités en cas de retard, parce que c'est fréquent qu'il y ait des retards. Faut pas hésiter à en discuter avec l'entrepreneur avant de signer.
Avant de signer. Donc, lui mentionner que telle date, ça doit être fait parce que...
Ça doit être fini.
C'est ça. Terminé, complété.
Oui.
Bon, maintenant, Charles, si je signe un contrat avec un entrepreneur et que pour une raison ou une autre, là, je change d'idée, je vais annuler, est-ce que je peux faire ça?
Bien, si vous avez conclu un contrat avec un commerçant itinérant, vous avez 10 jours pour annuler, peu importe le motif, et sans frais ni pénalité. Dans les autres cas, il n'y a pas vraiment rien dans la LPC qui prévoit l'annulation. On s'en réfère à ce moment-là au Code civil qui dit qu'on peut résilier un contrat, mais que l'entrepreneur pourrait nous réclamer les dommages que ça lui cause. Et donc, ça peut, en bout de piste, ça peut se retrouver devant le tribunal. Alors, c'est sûr que si on envisage de résilier un contrat, faut bien assurer nos arrières en vérifiant et en demandant au besoin des conseils juridiques.
Et quels conseils vous nous dites pour le moment où on doit payer l'entrepreneur?
Il n'y a pas rien non plus dans la loi là-dessus. Généralement, l'entreprise va vous demander un dépôt à la signature là, pour s'assurer que vous êtes sérieux.
Okay. Mm-hmm.
Mais il faudrait pas que ça tourne... Ça tourne généralement à 10 et 15 % du total, mais il faudrait pas que ça soit plus que ça.
Pas plus que ça.
On vous, On voit fréquemment des entreprises qui demandent 50 % puis qui disparaissent après avoir planté deux clous. Mm-hmm. Alors là, vous risquez de perdre votre argent. Entendez-vous donc à l'avance sur non seulement sur la compte, mais aussi sur le mode de versement. Là. Généralement, on paye selon l'avancement des travaux. Là, on y va par tranche. Plus les travaux avancent, plus on paye. Et puis, on se garde un 10 à 15 % du total une dizaine de jours après la fin des travaux. Comme ça, on peut s'assurer que tout a été bien fait à notre goût, mais aussi, on peut s'assurer que l'entreprise a payé tous ses sous-traitants et ses fournisseurs de matériaux. Ça peut nous éviter des gros ennuis. Cet ennui-là, le gros ennui dont je parle, ça s'appelle l'hypothèque légale de construction. Et ça, croyez-moi, vous en voulez pas de ça.
Oui, il faut vérifier tout ça, bien sûr. Des travaux de rénovation, on sait, c'est coûteux. C'est tentant de faire les travaux par, je ne sais pas moi, le beau-frère ou une connaissance pour beaucoup moins cher ou même en dessous de la table. Qu'est-ce que vous en dites de ça, vous?
Bien, au-delà du fait que le travail au noir, c'est illégal, faut savoir aussi qu'en cas de problème, bien, vous pourriez vous retrouver là, sans aucun recours et avec des relations familiales ou amicales très dégradées. Alors, c'est certain qu'on vous le déconseille.
C'est très bien, toutes ces informations-là. Mais sachez, Charles, qu'ici, on a de très bons entrepreneurs qui sont légaux dans la région. Et si les gens qui jamais veulent avoir de l'information à ce sujet-là, rappelez-nous comment vous rejoindre.
Ben, il y a une section habitation-rénovation sur notre site web à opc.gouv.qc.ca. Je vous recommande aussi le site de la Régie du bâtiment. Il y a une association qui se spécialise là-dedans, l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction, l'ACQC. Ça gagne à être connue. Et puis, il y a des renseignements sur les rénovations vertes là, sur le site de la SCHL. Ça peut être une bonne ressource aussi. Sinon, ben, il y a également le bon vieux téléphone pour joindre l'office au 1-888-672-2556.
Charles Tanguay de l'Office de la protection du consommateur. C'est toujours intéressant, toujours de bons conseils. Bonne semaine, on se reparle dans deux semaines.
Merci, au revoir.
Cette chronique vous a été présentée par Sylvain Laviolette, courtier en assurance de personnes. Vous avez entre 18 et 80 ans, contactez-le peu importe votre condition médicale. Aucun cas n'est refusé. 819-449-2112.